Canal Académie. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
Le cinéma a ancré dans notre imaginaire la compétition acharnée que se sont livrées l'URSS et les États-Unis pour remporter la conquête de l'espace dans le contexte de la guerre froide. Cependant, durant cette longue période, les communautés scientifiques des deux blocs entretinrent aussi des relations d'échange et même de coopération. Elles furent particulièrement intenses en France pour des raisons politiques mais aussi pragmatiques. Nous allons y revenir. Toutes les disciplines sont représentées, y compris les plus sensibles. Mathématiques, biochimie, médecine, agronomie, neurosciences, physique nucléaire, exploration spatiale, calcul informatique. Un ouvrage récent rassemble les témoignages d'une cinquantaine de scientifiques français qui ont vécu cette histoire passionnante et c'est très émouvant. Nous sommes en compagnie de Claude Debru, membre de l'Académie des sciences, qui a dirigé ce travail. Bonjour.
Bonjour.
Alors pourquoi la France occupe-t-elle une place singulière dans cette histoire ? Est-ce à cause de cette fameuse exception française, chère au général de Gaulle ?
Certainement, c'est une partie de l'explication. Mais pour avoir la totalité de l'explication, il faut remonter à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où de Gaulle avait fait quand même alliance avec le Parti communiste. Et le Parti communiste a joué un rôle important, pas toujours très favorable à la science, je veux dire au progrès réel de la science, mais il a quand même joué un rôle très important dans le rapprochement avec l'Union soviétique à l'époque. Donc après ça, le général de Gaulle est tombé malheureusement, et puis il est revenu au pouvoir en 1958, et là ça a été une grande époque pour la recherche scientifique d'une part et pour le rapprochement avec l'URSS d'autre part, pour des raisons qui sont effectivement géopolitiques. La nécessité pour le général de Gaulle de sauvegarder une certaine indépendance de la France par rapport aux deux blocs. Alors pourquoi aller plutôt vers l'Union soviétique ? Ça c'est une question. Il y a eu ce voyage de De Gaulle à Moscou.
En 1966, c'est un tournant cette année-là.
En 1966, absolument. Je pense qu'il voulait tenir un petit peu la dragée haute aux Américains, et depuis très longtemps, c'était un petit peu sa vision des choses. Puisque les Américains... Moi, je dois beaucoup aux États-Unis, hein, donc je ne vais pas trop cracher dans la soupe, certainement pas. Mais les Américains... De Gaulle avait mal vécu les tentatives américaines de mainmise sur la France à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Donc beaucoup de choses, en fait, sont des conséquences de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, il ne faut pas l'oublier.
Ce que vous semblez suggérer, c'est que ces relations scientifiques, cette circulation des savoirs et puis des hommes de science également, a été finalement presque plus importante du côté scientifique que du côté américain pour la France ?
Du côté scientifique vers la Russie que vers l'Amérique ? Non, je ne pense pas. Beaucoup de scientifiques français ont eu des relations extrêmement étroites avec les États-Unis, c'est évident. Beaucoup en biologie, en médecine, ont fêté hier ou avant-hier, ont rendu hommage à François Gros, qui est une personnalité absolument mondialisée. S'agissant de ce type de personnalité scientifique, on ne peut pas trop les orienter dans un sens ou dans l'autre. Beaucoup de médecins français avaient des relations très étroites avec les États-Unis. Je l'ai vu de mes yeux et c'était aussi encore pendant la guerre froide.
Alors, du côté soviétique, nous sommes aussi dans une période particulière. Lorsque cette relation se développe, nous sommes aussi après la mort de Staline, ce qui facilite sans doute les choses.
Oui, ça facilite les choses jusqu'à un certain point. Ce travail a été terrible pour moi. Pour quelle raison ? Parce qu'on voyait bien le double jeu des puissances et la Russie qui cherchait à piller littéralement la science française. Et on s'en est aperçu assez rapidement. Et puis la France qui cherchait certains avantages dans la coopération avec la Russie, en particulier dans le domaine spatial, c'est évident. Donc il faut avoir une vision un petit peu dialectique des choses, dirais-je.
Qui donne une place à la complexité, en tout cas, et nous allons bientôt rentrer dans le vif du sujet, mais peut-être encore un propos préalable. Vous dites bien que C'est la première fois finalement dans l'histoire des sciences que les sciences sont autant liées à la diplomatie à cette période-là.
Je ne pense pas que ce soit la première fois, mais c'est certainement un lien très très fort qui s'est établi pendant la guerre froide, c'est sûr.
Avec des conseillers scientifiques en ambassade, la création de nouveaux postes.
C'est le cas et c'est allé jusqu'à l'installation de laboratoires du CNRS en Russie, à Moscou, dans des époques récentes.
Ouais. Alors, de façon très concrète, quelle forme a pu prendre cette coopération et tous ces échanges ?
Il s'agit essentiellement de voyages réciproques, beaucoup plus contrôlés de la part des Russes que de la part des Français, bien évidemment, de projets de recherche communs, de publications communes, de colloques communs, tantôt dans un pays, tantôt dans un autre, et puis ça s'est élargi aussi à la sphère soviétique. Et donc, il y a eu énormément d'activités. Et je dirais que certaines de ces activités ont été des activités spontanées, qui étaient, et c'était le cas en particulier à Strasbourg, en biologie moléculaire, et je vais rendre hommage à Guy Dürheimer, qui est un membre de l'Académie de médecine actuellement, c'était une volonté spontanée des Strasbourgeois d'avoir cette ouverture à l'Est. Donc, il n'y avait pas que le cadre institutionnel, CNRS, etc. Il y avait aussi des initiatives spontanées.
Avec plutôt des courts séjours que des longs séjours.
Là encore, c'est assez variable. Par exemple, en matière de physique, d'accélérateur, de particules, il y a eu le projet Mirabel qui s'est installé dans une ville dont j'oublie le nom, qui est présenté dans cet ouvrage par Marcel Jacquemet, qui est un homme du CEA. Le séjour a été long, nécessitait l'installation de familles, etc., etc., d'écoles, toutes sortes de choses, d'appartements, etc.
Et quel était le but de ce projet ?
C'était de construire un accélérateur de particules dans une ville près de Moscou, qui était déjà tout à fait préparée pour cela. Il y avait plusieurs installations scientifiques en URSS, très importantes et assez secrètes parfois. À Dubna, je pense que c'était peut-être à Dubna. À Pushchino, c'était plutôt la biologie. Et surtout à Novosibirsk, dans le fin fond de la Russie, où il y avait cette ville qui s'appelait Akadem-Gorodok ou quelque chose comme ça. J'ai eu beaucoup de difficultés dans cet ouvrage avec la graphie des noms russes et avec la transcription des noms russes. C'était un exercice nouveau pour moi. Voilà, donc pour résumer cette partie, si vous voulez, il y avait des installations un peu partout en Russie, mais l'installation de Novosibirsk était éloigné et donc il y régnait, semble-t-il, une atmosphère de liberté intellectuelle plus grande qu'ailleurs. Parce que la science soviétique était extrêmement pilotée, il faut le dire. Elle était pilotée par l'Académie des sciences, par l'Académie agronomique, etc., etc. C'était le CNRS français. Donc ils avaient tous les instituts, toutes les installations. C'était piloté, et c'était piloté par le ministère de la Recherche, et en dernier ressort, évidemment, par le Politburo.
Auquel tous ces organes scientifiques rendaient compte régulièrement.
Oui, absolument.
Et là, c'est une différence avec la France, parce qu'en France, il y a aussi une Académie des sciences, mais qui a un rôle un peu différent. L'organisation du milieu scientifique français est peut-être beaucoup plus complexe, plus imbriquée, moins hiérarchisé, on pourrait peut-être parler d'une galaxie d'institutions, oui. Surtout à cette époque-là.
Oui, absolument. Absolument. Quant à l'Académie des sciences, elle a des missions particulières, bien sûr. Elle ne gère pas directement de laboratoire, mais enfin, elle anime, elle récompense, elle élabore des rapports d'expertise. Elle a un rôle, je dirais qu'elle a un rôle de tirer le milieu scientifique par le haut, par l'exemple. Elle a un rôle d'exemplarité, c'est clair.
Alors, ces scientifiques français, quand ils arrivent en URSS, que découvrent-ils ? Ils arrivent avec beaucoup de curiosité, j'imagine, ce désir de rencontre aussi, dont parle Édouard Brézin, par exemple.
Oui.
Que voient-ils ?
Eh bien, ils voient des choses très, très différentes et ils ont raconté des choses très différentes, des expériences très, très variées. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'était quand même le sort des réfugiés NIC.
Oui. C'est-à-dire des personnes qui n'étaient pas autorisées à quitter le territoire.
Qui n'étaient pas autorisées à quitter le territoire pour des raisons d'antisémitisme notoire. Et le fait que, malgré tout, ils arrivaient difficilement à conserver une activité scientifique, intellectuelle, même assez productive, mais qu'ils étaient espionnés en permanence par le KGB. Et c'est Yves Quéré, qui a été délégué des relations internationales de l'Académie des sciences, qui raconte cette histoire renversante. Il était dans une réunion de réfugiés. Et les réfugiés savaient qu'ils étaient espionnés. Et puis arrive un scientifique américain qui commence à discuter avec les Russes. Et Yves Quéré s'en va, il sort. Et je ne sais pas, à 50-100 mètres de là, il y avait une camionnette postée dans la rue. Et il entend distinctement les propos du scientifique américain qui parlait, un physicien qui parlait d'Hamiltonien, etc. etc. Évidemment, il se rend compte que les réfugiés étaient espionnés d'une autre manière que par des micros. Peut-être aussi par des micros, mais d'une autre manière que par des micros.
Yves Quéré fait d'ailleurs partie de vos témoins qui sont particulièrement sensibles, on pourrait dire, aux considérations politiques, aux droits de l'homme également. Et ce n'est pas nécessairement le cas de tous les scientifiques. Certains séparent peut-être l'intérêt de la science ou ces considérations sont plus ou moins impliquées, pourrait-on dire.
C'est difficile à dire parce que, en général, les scientifiques sont attachés aux droits de l'homme, ils sont attachés à la liberté de penser. Bon, certains y vont. D'autres appellent au boycott. Il y a eu des attitudes différentes vis-à-vis des boycotts. Mais quand même, les scientifiques, et en particulier les scientifiques français, dans leur immense majorité, sont très attachés à la liberté de circulation des idées scientifiques. Parce que c'est ça qui fait c'est un moteur très fort du progrès scientifique que cette interaction entre les scientifiques. C'est le moteur même essentiel. Donc, ils étaient attachés, et aussi au nom de cette liberté, ils étaient attachés à essayer de sortir leurs amis russes, soviétiques, polonais, tchèques, etc., roumains, que sais-je, tchécoslovaques, de l'emprise des apparatchiks soviétiques.
Pour certains, il y a une forme de désillusion en se rendant sur place.
Ils s'attendaient quand même assez largement à ça. Mais il y a eu des expériences très diverses. Il y a eu des expériences, je crois, de collaboration sans arrière-pensée de la part des scientifiques eux-mêmes. Bien sûr, ils étaient toujours plus ou moins espionnés. Mais je pense que la volonté réciproque, ce n'est pas seulement la volonté politique du Politburo de l'Union soviétique, et du côté de la France, la volonté politique du général de Gaulle, qu'il a imposé, y compris face à Pompidou, n'est-ce pas ? Il s'est raconté dans ce livre. Cette double volonté, elle a réussi quand même réussi des réalisations qui étaient très remarquables, aussi bien en neurosciences qu'en biologie moléculaire, qu'en exploration spatiale, etc., etc.
C'est sans doute lié à la nature de la science aussi, qui est un langage universel.
La science est un langage universel, c'est clair. Alors, de ce point de vue, langage universel, il y avait des difficultés de traduction, évidemment. Les Russes publient en russe. Ils essayaient de faire passer leurs publications à l'étranger, parce qu'il y avait la manie du secret en Union soviétique. Tel papier de mathématiques était classé secret défense. Mais ils arrivaient à contourner cela par la valise diplomatique française.
Alors, les Français ont aussi découvert un système de formation très performant. Ils ont souvent été impressionnés par la qualité des personnes qu'ils ont rencontrées.
Absolument. L'école mathématique russe était brillantissime. L'école de physique était brillantissime. Bon, on n'avait pas les envier. Bon, ça, c'est l'histoire de la physique en France. La physique en France a été reconstituée après la guerre. en particulier avec l'essor de la mécanique quantique qui avait été un petit peu négligée. Évidemment, la physique en France, il y avait des stars comme Frédéric Joliot-Curie et tout le groupe des Curie autour de Curie, mais c'était quand même assez
exceptionnel. Il y avait l'école des Ouches aussi.
Il y a eu, après la guerre, il y a eu l'école des Ouches. Madame De Witt, Roger Ballian, Philippe Nozière, beaucoup de personnalités dont la physique en France était redevenue quelque chose de très, très fort grâce aux efforts de gens comme Alfred Kastler, par exemple, et bien d'autres. D'ailleurs, on l'a vu, le nombre de prix Nobel qui ont été jusqu'à récemment attribués à des Français en physique, sans compter les médailles Fields. Donc, je veux dire que les relations scientifiques en matière de mathématiques ou en matière de physique ou en matière de chimie étaient assez équilibrées.
Pas du tout asymétriques.
Non, c'est ce qui faisait d'ailleurs la possibilité de l'échange. Sinon...
Et la nécessité, j'imagine.
La nécessité, le souhait, surtout le souhait.
Une autre caractéristique du milieu scientifique du côté de l'URSS, c'est la place des femmes qui est beaucoup plus importante.
Oui, alors beaucoup plus importante, je ne sais pas, mais importante, elle l'était. Et les femmes étaient des travailleuses acharnées. D'ailleurs, c'est raconté par c'est un scientifique français, un biologiste qui est allé à Moscou en 1945. Et qui a dressé un tableau saisissant, littéralement saisissant, de la quantité de travail fourni par les scientifiques, qu'il s'agisse de femmes ou qu'il s'agisse d'hommes, n'est-ce pas, pour assurer le progrès de l'Union soviétique. Et c'est un tableau saisissant, et il a un petit commentaire acide sur le fait que du côté français, les gens qui prenaient la révolution n'étaient pas des gens qui étaient particulièrement ardents au travail.
Pour les sujets de coopération, lesquels se sont montrés particulièrement fructueux? Parce que vous le dites, ces échanges ont été nombreux, très variés. Quels domaines ont été particulièrement portés par ces échanges?
Je dirais quasi tous. Ce qui frappe le plus, bien entendu, c'est l'espace. L'envoi d'astronautes, on pense évidemment à Claudie Agnoret, qui était étudiante dans l'Imbertos, qui a joué un rôle considérable, qui était très fascinée par la puissance de la neurophysiologie en Russie, très fascinée, et qui a fait un article tout à fait remarquable dans ce volume, et d'autres. L'exploration spatiale, Jacques Blamont a envoyé des sondes dans l'espace. Marie-Lise Chanin étudiait la haute atmosphère avec les Russes par des systèmes dits de LIDAR. Voilà, bon, ce sont quelques exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. On parlait de Mirabel, l'accélérateur qui était, je pense, à Dubna. Ça a été un succès.
Avec une évolution dans le domaine nucléaire de la politique, parce que c'est un sujet extrêmement délicat.
Le nucléaire, ça a été un enjeu très très important. Alors on voit très bien comment les Américains avaient eu de l'avance sur les Russes. Et il y avait la nécessité de disposer d'uranium. Il y avait l'uranium belge. Il y avait l'uranium belge dont une partie avait été distraite par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, etc. etc. Toute une série d'histoires très rocambolesques, finalement. Il y a pas mal d'histoires rocambolesques dans cette affaire. Revenons au nucléaire. Oui, il y avait la nécessité de disposer de matières fissiles. Il y a eu la bombe d'Hiroshima, il y a eu d'autres bombes, Nagasaki, il y a eu d'autres fabrications de bombes soviétiques. C'est une histoire compliquée qui est racontée par Guillaumont. Donc, Guillaumont, qui est un homme du CEA, raconte très bien, d'une manière très détaillée, toute cette aventure nucléaire, dans tous ses détails scientifiques, parce que c'est très, très important. C'était la chimie, évidemment, qui était le plus impliqué dans cette affaire-là, depuis d'ailleurs, toujours, depuis Marie Curie, Frédéric Joliot-Curie, et toute cette affaire. Frédéric Joliot-Curie, c'est une histoire très importante. Très importante aussi, des relations un petit peu compliquées avec le Parti communiste français. Mais Frédéric Joliot-Curie a été, comment dire, a entretenu des relations très cordiales, je crois, avec le général de Gaulle. Il a été, de Gaulle est parti après son premier gouvernement. Joliot-Curie a été remercié de sa direction du CEA, je crois bien. Il est revenu en grâce avec le général de Gaulle. Il y a eu des périodes difficiles dans la vie de Frédéric Joliot-Curie.
Dans le domaine médical, il y a également de nombreuses collaborations, notamment en ce qui concerne le cancer. Et puis on peut aussi évoquer cette figure de Pasteur qui reste très, très puissante en France, mais aussi du côté des Russes.
C'est tout à fait juste. La figure de Pasteur reste très, très, très puissante. Pasteur avait des Russes dans son laboratoire. Évidemment, on pense à Metchnikov. Pasteur avait traité des enfants russes contre la rage. Et ça, les Russes ne l'ont jamais oublié. Bon, les Russes, ils sont assez géniaux, hein. Il faut l'avouer. Moi, je dois dire que c'est une des leçons de cette histoire que je ne connaissais pas du tout avant d'entreprendre ces interviews de 50 personnalités, comme on l'a dit. Oui, il y a du génie dans la population russe, c'est clair, en mathématiques, en physique, dans l'art, etc., dans la littérature. C'est très fort, il y a des gens qui sont très très sensibles à cela. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on en parle, parce que ces relations sont détruites, ou quasiment détruites.
La France et la Russie.
En général. Elles sont détruites, mais il y a eu dans cet ouvrage le témoignage de Jean-Jacques Hervé, qui est un agronome, qui a été conseiller scientifique à Moscou et à Kiev aussi, donc il y a la double position, et qui a quand même une remarque sur la responsabilité américaine, la responsabilité bancaire dans l'éloignement de la Russie par rapport à l'Occident. C'est quand même assez frappant. Je vais faire une petite citation en conclusion de son article qui rend hommage vraiment au génie de certains soviétiques. Pour conclure, il me semble utile de mentionner une confidence de l'économiste Jeffrey Sachs. C'est page 415. Appelé par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international à appliquer la nouvelle Russie de 1991, la thérapie de choc qu'il avait préconisée pour redresser l'économie polonaise. Ainsi, au cours d'un séminaire interuniversitaire, Jeffrey Sachs fait part de son amertume, non pas en raison de sa proposition de la thérapie de choc imposée au peuple russe, mais en raison du désengagement des grandes institutions financières internationales qui, préférant soutenir l'émergence rapide d'une oligarchie puissante plutôt qu'une économie régulée de marché, poussent la Russie à s'opposer à l'Occident. Commentaire de Jean-Jacques Hervé, qui a été président de l'Académie d'agriculture, je mentionne également un avertissement que nous aurions dû écouter. Alors c'est facile de refaire l'histoire a posteriori, mais je crois qu'il y a des regrets à avoir, plus que des regrets, des remords. Il y a un certain nombre de choses qui restent à élucider sur le plan historique. À partir de témoignages de ce genre, je pense qu'il y a beaucoup de matière pour les historiens.
C'est justement un sujet dans ce livre, vous avez surtout traité la partie russe, mais peut-être moins celui des républiques populaires qui y étaient associées. Faute de temps, de moyens, la tâche était énorme.
Oui, c'est vrai.
Donc, le champ reste à explorer.
Le champ reste à explorer. Enfin, il y avait pas mal de choses sur la Pologne. Il y a des choses indirectement sur la Bulgarie. Il y a des choses indirectement sur la Yougoslavie. Il y a des choses indirectement sur la Roumanie. La Roumanie, je suis assez reconnaissant à M. Alexandre Herlea, qui a été ministre des Relations européennes de la République de Roumanie à un certain moment, d'avoir donné quelques renseignements importants sur la nécessité de relations industrielles, scientifiques et industrielles, pour équilibrer les relations entre la France et la Roumanie, et l'industrie automobile française en Roumanie, et des choses de ce genre, et aussi les questions militaires. La Roumanie, je connais un petit peu cette question, pour des raisons, je dirais, familial du côté de ma femme. Mais c'est un domaine intéressant, parce qu'aussi en médecine, les Roumains aimaient beaucoup l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur, c'est quand même un des instituts qui ont joué le rôle le plus important dans les relations franco-russes, à cause de, on l'a dit, tous ces savants russes qui sont venus à l'Institut Pasteur.
Il y a d'autres organisations comme le CNRS, mais qui, lui, a choisi à un moment donné d'interrompre les relations pour des raisons politiques.
Oui, c'était après l'affaire tchécoslovaque, je crois. Mais les choses ont repris. Et puis la raison d'État étant en la matière prévalente, Pompidou a rétabli des relations avec Brejnev, je crois bien.
C'est ce qui frappe en lisant votre livre, c'est que malgré des tensions, parce que là, nous parlons de plusieurs décennies, donc la situation politique n'est pas stable. Voilà, il y a des périodes de détente, des périodes d'opposition plus frontale, pourrait-on dire. Malgré tout, ces échanges, sur la longue durée, perdurent et même parfois s'intensifient, avec aussi une part croissante de l'Académie des sciences.
De l'Académie des sciences françaises ?
Oui.
L'Académie des sciences françaises pouvait agir de diverses manières, c'est clair. Et elle a renforcé son action internationale. C'était la volonté délibérée de tous les secrétaires perpétuels qui se sont succédés. Mais en particulier, il convient de rendre hommage à M. Paul Germain, qui était un des artisans du renouveau de la mécanique en France après la guerre. Peut-être même le principal artisan, et qui avait une vision. Il avait une vision transnationale. Et ils ont, avec ses confrères, créé d'abord la délégation aux relations internationales, avec Yves Quéré et d'autres, créé le réseau de l'Alliance des académies européennes, ALEA, qui a été très actif, créé juste après la fin de la guerre froide, et sur la demande de la partie polonaise, je crois bien me souvenir de cela, sur une suggestion de la partie polonaise, ils ont créé le réseau ALEA, et l'une des premières activités du réseau ALEA a été une conférence qui a été organisée à Strasbourg en 1998, je crois, mais ces choses-là étaient déjà actives en 1993 ou quelque chose comme ça, sur l'histoire des sciences en Europe. Mais là, il n'y avait pas de Russes. Il y avait 26 pays, mais il n'y avait pas de Russes. Ils étaient à Strasbourg. Donc, il y a eu des éloignements, ce qui est fort malheureux.
Ce livre est extrêmement important parce qu'il rassemble un matériau historique précieux. Vous êtes allé à la rencontre de tous ces scientifiques. Comment est-ce que vous avez procédé pour recueillir cette parole ?
Bien sûr. C'est un long travail de plusieurs années, hein, de 4-5 ans. Bien sûr, je les ai sollicités, enregistrés, je les ai écoutés, je les ai retranscrits. Parfois, j'ai retranscrit moi-même. Et j'ai rajouté des introductions et des commentaires. Mais c'était indispensable de faire ce travail. Parce que la génération précédente, elle a disparu. Pierre Buzer, dont on parlait tout à l'heure, a disparu. Il était très, très impliqué dans l'IBRO, l'International Brain Research Organization. Sa femme, Arlette Buzer, avait fait voler des animaux dans des fusées russes. Voilà. Donc ces témoignages-là, on ne peut plus les recueillir. C'est extrêmement dommage. Enfin, il y a ça. Et puis les historiens, ensuite, iront piocher dans les archives. Les archives, c'est très important. Il n'y a pas que les témoignages, il y a aussi la recherche dans les archives.
Des correspondances, notamment.
Des correspondances, bien entendu. Alors les archives russes, elles sont ouvertes, je crois, jusqu'à un certain point, je crois que Madame Sophie Curé, qui est historienne, avait ses entrées à Moscou, dans les archives russes. Les archives françaises, je pense que, sauf ce qui est classé, je pense que c'est accessible. Simplement, c'est tout un travail de se déplacer et d'aller consulter des archives. Mais on n'est pas historien si l'on n'a pas consulté des archives. C'est clair.
Et il est important de le rappeler. Vous, qu'est-ce qui vous a surpris, étonné en recueillant ces témoignages et ces documents? Qu'est-ce que vous avez découvert?
Je ne connaissais rien, donc j'ai tout découvert. Ce qui m'a le plus frappé, peut-être par idéalisme bien français, c'est la volonté des scientifiques de poursuivre, d'établir, d'intensifier des relations. C'est ça qui m'a le plus frappé. Quelles que soient les circonstances politiques, aussi dures soient-elles, et on a vu des alternances de détente, de regains de tension, etc. Mais c'est la relation entre la Russie et la France est une relation de longue durée. Elle commence avec Pierre le Grand. C'est une relation de fascination réciproque. C'est un fond culturel de complémentarité, en quelque sorte. Mais il est très difficile de donner corps à ce fond culturel dans des circonstances politiques qui ne le permettent plus. C'est tout ce que je peux dire en la matière. Mais enfin, c'est une relation de très longue durée.
Aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez les relations entre les scientifiques russes et français?
Je pense qu'il n'y en a pratiquement plus. Il y en a de manière épisodique. Je pense aux neurosciences, au laboratoire de M. Massion. Je pense que Alain Berthoz doit avoir la capacité de maintenir des relations avec les Russes. Il les aime beaucoup. Mais pour le reste, je ne vois pas. C'est une question de priorité politique, évidemment. Ça a toujours été une question de priorité politique pour les États, de priorité prioritaire ou de priorité moins prioritaire. C'est assez... Il y a eu pas mal d'évolutions négatives.
Depuis quand vous voyez une rupture?
Une rupture dans la politique russe. Je ne vois pas tellement de ruptures. Je vois des évolutions tantôt positives, tantôt négatives, très variables selon les domaines. Je pense qu'il y a eu des domaines comme la biologie moléculaire où les Russes étaient tellement en retard qu'ils ont tout fait pour rattraper leur retard, y compris par des procédures d'espionnage que je ne rappellerai pas, si ce n'est une histoire qui m'a été rapportée par la veuve de M. Jacques Ricard, qui était un biophysicien bien connu à Marseille, qui a été ensuite directeur à Paris de l'Institut Jacques Monod et qui a été conseiller de la secrétaire d'État à la recherche, Mme Saunier Saïté. Jacques Ricard avait reçu des Russes dans son laboratoire. Et on s'est aperçu, d'ailleurs la DST était là derrière, bien évidemment. Bien évidemment, la DST surveillait tout. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des Russes qui avaient des cravates, qui laissaient tremper dans les solutions expérimentales, pour pouvoir par la suite établir la composition chimique de ces solutions. C'est allé jusque-là.
Incroyable.
C'est allé jusque-là. C'est une histoire qui m'a beaucoup amusé. Il y a beaucoup d'histoires de ce genre. D'histoires aussi de vol de matériel physique, de réseau de très fin, de raies, qui a été distrait par un Russe, mais qui s'est fait ensuite restituer.
Alors cet ouvrage, pour conclure, est le premier, en réalité, d'une série, et vos travaux ne sont pas terminés. Je crois que vous avez encore des projets.
Oui, il y a encore des projets. Moi, je ne serai plus l'instrument de la chose, mais oui, il y a des projets d'un ouvrage présentant des analyses et pas seulement des témoignages. Et puis, si ça se fait, un ouvrage rassemblant des textes d'accord, des textes d'archives, etc. Donc, je le répète, on n'est pas historien si on n'a pas tâté des archives.
Eh bien, un grand merci, Claude Debout, d'avoir été avec nous pour nous parler des sciences en guerre froide entre 1946 et 1991. Je rappelle qu'il est publié aux presses universitaires Rhin et Danube. Nous avons compris qu'il y a des histoires d'espionnage, mais que cette histoire est bien plus large, plus complexe que cela, qu'elle a beaucoup apporté à la fois côté français et côté russe pour le progrès de la science, des connaissances, mais aussi pour dans les itinéraires personnels de tous ces savants qui ont été impliqué dans ces relations.
Oui, si vous permettez, je voudrais ajouter un mot concernant les pages universitaires Rhin et Danube, parce que ça fait allusion à l'Europe centrale, évidemment, et à la géographie et la géopolitique européenne, qui ont été magistralement décrites par une sociologue agronome, membre de l'Académie d'agriculture, Marie-Claude Morel, ancienne directrice scientifique au CNRS. Il s'agit d'un espace entre l'Europe occidentale et la Russie, espace à géométrie très variable. Et ce que nous vivons actuellement, et je pense qu'il faut replacer les choses dans ce que nous vivons actuellement qui est terrible, eh bien cette espèce d'instabilité de cet espace-là au cours des siècles, des mouvements de part et d'autre qui font la difficulté de stabilisation de cette région-là. Mais nous sommes évidemment confrontés à un défi épouvantable qui est celui de l'Ukraine. Et l'Ukraine, je voudrais le dire aussi, pour finir, a été un creuset extraordinaire de créativité scientifique à Kiev, à Kharkov, à Odessa, à Lviv ou Lviv. Bref, il y a eu des villes qui ont joué un rôle avec des scientifiques éminents dans le progrès général des sciences.
Eh bien, hommage aux scientifiques ukrainiens. Merci à vous, Claude Debeau, et à bientôt.
Merci.
Canal Académie.
La plateforme de podcast de l'Institut de France.